Nous sommes en guerre.
Brothers and sisters, we are one country. We are one people.
La réalité de notre monde, on donne beaucoup plus d'importance à la destruction, à la mort. On consacre beaucoup plus de moyens aux outils à tuer qu'à la vie elle-même.
Pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sens prêt à tuer.
Voici que Christ va dire la chose suivante. Remets ton épée à sa place, car quiconque prendra l'épée périra par l'épée.
Le Mouvement pour la paix, une émission pacifique et conciliante proposée par le comité Pax Rona.
Voilà, on continue de parler de la paix aujourd'hui avec le Mouvement pour la paix, le comité Pax Rona. Je suis avec tout le comité qui est présent autour de moi. Vous les connaissez bien maintenant. Il y a Pierre, Muriel, Loïc, Anne-Marie et Brigitte. Anne-Marie, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire si j'ai envie de cultiver la paix dans ma famille, dans mes relations? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux voir, par exemple, pour vous, que vous avez un beau petit logo, une colombe sur votre vêtement. C'est la colombe de la paix. Hein.
C'est la colombe de Picasso. Vous savez quand même que Picasso a dessiné et peint pour nous quand même. C'était un pacifiste, Picasso.
Ah, Picasso était pacifiste.
Ah ben oui, bien sûr. On a au Mouvement de la paix maintenant une galerie qui va s'ouvrir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, une galerie qui va s'ouvrir pour toutes les œuvres d'art pacifiques. Il y en a tout un tas. Voilà.
Mais pour... Elle va s'ouvrir où?
À Paris. À Saint-Ouen exactement. À Saint-Ouen, à la Maison de la paix, au siège du Mouvement de la paix.
Ah super. Donc voilà. Ça, c'est déjà une chose. On peut aller voir cette expo?
Ben, vous allez pouvoir y aller. Je ne sais pas si elle est déjà ouverte, mais c'est incessamment sous peu.
Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on veut s'engager pour la paix?
Je vous dirais mille choses, il y a mille réponses à donner, ça dépend à quel niveau vous situez. Par exemple, on peut travailler dans la famille, on peut travailler entre amis, on peut travailler à l'école, mais ça c'est un niveau individuel. Après il faut travailler au niveau national, enfin au niveau de son village. Voilà. C'est aussi la question qui s'est posée au niveau des comités. Est-ce qu'on travaille dans des comités localement ou est-ce qu'on a une vue plus ample? La paix ça ne peut pas être que dans un petit coin, la paix c'est national, c'est international. Aujourd'hui la planète est de plus en plus petite, on a des communications de plus en plus faciles, on ne peut plus penser la paix aujourd'hui d'une manière restreinte et sous notre clocher, c'est pas possible. Alors après, ben, y a du travail dans la famille, du travail dans les écoles, du travail dans tous les lieux de réunion, et puis après il y a du travail au niveau du gouvernement, des décideurs, au niveau qu'est-ce qu'il faut choisir politiquement, économiquement. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, on se demande parfois si c'est le politique qui décide ou si c'est l'économie, si c'est les grandes multinationales ou si c'est... On se demande, voilà. Donc il y a mille choses à faire, vous me demandez, c'est énorme ce qu'il y a à faire.
Alors, Brigitte, par exemple, vous êtes nouvelle adhérente au Mouvement de la paix. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des enfants, qu'est-ce que vous faites pour eux? Vous avez des amis, des voisins? Je suis sûr que vous êtes une militante, tous les dimanches vous êtes dehors avec une pancarte, comment vous faites?
Déjà, c'est commencé au début, c'est l'éducation. Donc l'éducation des enfants au sein de la cellule familiale déjà.
Vous faites quoi? Vous leur dites quoi à vos enfants?
Déjà les jouets. Voilà, les jouets des enfants, c'est vrai que c'est pas parce que le petit copain a le pistolet qui tire en rafale qu'il aura le pistolet. On peut discuter, on peut le dessiner, et puis après on peut expliquer pourquoi on le dessine, qu'est-ce qui va se passer si on le dessine, qu'est-ce qu'il va y avoir en face le pistolet, expliquer, faire toute une histoire là-dessus. Puis les enfants, c'est ce qu'on disait à l'autre émission, les enfants comprennent très très vite ce qui ne va pas là-dedans. Et vous allez voir que les enfants vont vite passer du pistolet à un autre jeu. Donc ça commence par ça. Avec les voisins, et bien les voisins, c'est un peu de leur parler de ce qu'on fait. C'est très difficile d'aborder ce qui se passe autour de nous. Au niveau national, par exemple, de commenter l'actualité, c'est très difficile. Les gens n'osent pas vraiment dire ce qu'ils pensent et prendre part. Faire venir... d'une façon détournée. On ne va pas dire, bon, tu vois ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de Le gouvernement, enfin notre ministère, notre ministre, Monsieur Lecornu, est allé avec des industriels à Kiev pour en fait signer des contrats d'armement. On peut pas dire ça parce que on va nous prendre pour quelqu'un qui est partisan. Voilà, trouver des...
Donc informer, expliquer, puis démonter aussi les discours un petit peu pervers, enfin toxiques, où on nous dit que la guerre c'est bien, la guerre c'est... Par exemple, je vous donne une question qu'on se pose souvent, on se dit oui, mais si on est attaqué, par exemple, en ce moment, il y a l'Arménie qui a été attaquée dans une guerre éclair, est-ce que ça vaut pas le coup dans ces moments-là de se dire, bon, on prend les armes, on se défend Loïc?
Ben oui, ça c'est le premier réflexe, je pense. En plus, avec les médias que l'on a aujourd'hui en France, n'importe qui regarde les chaînes de télé, enfin, entend guerre, n'entend pas paix. Sans parler d'une chaîne comme LCI, je ne sais pas si on peut la citer, mais que ce soit le jour ou la nuit, vous allumez, vous avez une brochette d'experts qui vous explique ce qui se passe en Ukraine et en Russie. C'est vrai que le premier réflexe des gens, c'est de dire ben oui, on ne peut pas faire autrement que la guerre. Donc il faut expliquer tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on peut faire avec cet argent qui est gaspillé en matériel, en munitions et en vie aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, le nombre de morts, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, est énorme.
Et ça, c'est peut-être le grand argument. Donc on peut agir comme ça, essayer de faire prendre conscience que la logique de la guerre est une logique stupide, comme vous disiez la dernière fois.
Oui, oui, je pense que c'est stupide. Donc, ben après, il existe des organismes, hein, l'ONU, l'Union européenne. Je pense qu'il faut aujourd'hui, enfin, c'est ce que le mouvement de la paix préconise, c'est de s'appuyer sur l'ONU pour faire dialoguer les gens entre eux.
Pierre, vous y croyez vraiment, vous, à cette capacité des instances internationales comme l'ONU d'arrêter les guerres? On a l'impression qu'ils sont souvent pas très doués pour ça, quoi.
Notre objectif est-il d'arrêter les guerres ou d'empêcher les guerres? Voilà, en fait, c'est ça la question. Parce que quand la guerre est là, de toute manière, effectivement, c'est très compliqué de l'arrêter. Tout est faussé et on a l'impression aujourd'hui que, par exemple, face à l'invasion des Russes, la seule chose qu'on peut faire, c'est de les repousser avec des armes. Les questions qu'il faut qu'on arrive à se poser très en amont, c'est comment est-ce que on empêche les prochaines guerres? C'est pour ça que la paix, c'est pas l'absence de guerre, et la paix, c'est pas l'espace de temps entre deux guerres. Sinon, ça veut dire que quand on est en paix, il va toujours y avoir la prochaine guerre qui va arriver. Voilà. Donc la paix, c'est comment est-ce qu'on travaille en profondeur et dans les consciences. Hein, le préambule de l'UNESCO dit c'est dans la tête des hommes que naissent les guerres, c'est dans la tête des hommes qu'il faut bâtir les défenses de la paix. Et donc comment on bâtit ces défenses de la paix? Eh bien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en prenant appui sur le fait que la Société des Nations n'avait pas pu empêcher cette Seconde Guerre mondiale d'arriver, un certain nombre d'États, et après la majorité des États, et l'intégralité des États ont décidé de construire un agora international qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Aujourd'hui, tous les pays de la planète sont à l'ONU. Il n'y a pas un pays qui est à l'extérieur, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit catholique, musulman, athée, que ce soit une dictature, une démocratie, une monarchie, une république. En fait, il existe ces espaces de dialogue dans lesquels tout le monde se retrouve. Donc quand on veut nous dire qu'on ne peut pas dialoguer avec un tel ou un tel ou un tel, excusez-moi, mais c'est du pipeau, c'est une farce. C'est parce qu'on ne veut pas dialoguer. Les espaces, ils existent. Et s'il n'y a pas eu de guerre en Europe, encore qu'il y en a eu un certain nombre, hein, mais si, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a été une zone beaucoup plus pacifiée que ce qu'elle l'avait été des millénaires et des millénaires auparavant, c'est parce que, en fait, en Europe, des peuples, et notamment le peuple allemand et le peuple français, se sont dit qu'ils avaient plus à gagner à construire ensemble un espace politique et démocratique commun plutôt qu'à se munir des meilleures armes et les uns et les autres. Le Brésil et l'Argentine, par exemple, avaient à un moment donné de leur histoire développé des programmes d'armement nucléaire l'un contre l'autre. Et dans les années 90, pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a eu des changements dans le pays, ils ont décidé de désarmer mutuellement et de renoncer mutuellement à leur programme d'armes atomiques. Il y a plein d'autres pays aujourd'hui dans le monde qui ont fait ça. Donc en fait, moi, je crois fondamentalement à l'idée que des adversaires peuvent se mettre autour d'une table pour décider ensemble des conditions de leur sécurité. Et de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans le conflit, qu'on est dans la guerre, ça sert à quoi une guerre, en fait ? Ça sert à préparer la guerre d'après. Parce que dans la guerre, il y a celui qui gagne et celui qui perd. Celui qui gagne, il en fout, excusez-moi l'expression, mais plein la gueule à celui qui perd. Et quelques années après, ben, les descendants de ceux qui ont perdu, ils veulent soit regagner du territoire, soit regagner de l'autorité, soit regagner de la reconnaissance.
Oui, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale là, que vous nous donnez. Hein.
Ben, si on avait réglé la Première Guerre mondiale de manière un peu plus juste que ce qu'elle a été avec le traité de Versailles, on n'aurait sans doute pas eu la seconde. Donc, c'est pour ça que j'ai la prétention de dire que les utopistes, c'est les fauteurs de guerre et les fouteurs de guerre. Et que les pacifistes, au contraire, c'est des gens qui sont, un, pas peureux, qui sont très courageux, parce que les pacifistes, eux, ils disent, ben voilà, on a des adversaires, on a des ennemis, certes, pourquoi on n'est pas d'accord ? Qu'est-ce qui nous sépare ? Et comment on fait pour que demain nos enfants puissent vivre ensemble ? Et ça, c'est fort. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque la question de départ de notre émission, c'était un peu qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, dans le qu'est-ce qu'on peut faire, il faut parler de la paix tout le temps. La paix, la paix, la paix. Quand on est une municipalité, par exemple, est-ce que dans la commune, il y a un espace qui est dédié à la paix ? Non ? Eh bien, baptisons une rue de la paix, une place de la paix. À Gap, la municipalité de Gap avait décidé de construire... Il y avait un nouvel espace qui se créait. Ben, nous, on leur a proposé, le comité du mouvement de la paix, enfin, les gens du mouvement de la paix des Hautes-Alpes, ont proposé que ça devienne l'esplanade de la paix. C'est devenu l'esplanade de la paix qui, maintenant, est le lieu où il y a tous les événements de la ville. Donc, les gens, ils vont à l'esplanade de la paix. Il y a des municipalités qui, à l'occasion du 21 septembre, par exemple, décident de pavoiser la rue de la paix avec des drapeaux arc-en-ciel. Des rues de la paix, il y en a dans plein de villes de notre secteur. Hein. Et ben, si le 21 septembre 2024, toutes les rues de la paix d'Ardèche, de Lozère, du Vaucluse, de la Drôme sont arborées de drapeaux pour la paix, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Mais on crée un climat, on crée un espace. Le mouvement de la paix dispose d'un certain nombre d'expositions qui peuvent être proposées dans les bibliothèques, dans les comités d'entreprise, dans les établissements scolaires, dans les fêtes populaires.
Donc en gros, si je suis directeur d'une école, je peux vous appeler, le mouvement de la paix, pour vous demander d'intervenir auprès des élèves, proposer une petite animation, des choses comme ça ?
Tout à fait. On peut former des enseignants à des outils pédagogiques dont on dispose. Voilà, il y a des expositions, il y a une exposition qui s'appelle « Jeunes visages de paix », par exemple, où c'est des portraits de jeunes qui expliquent leur motivation pour la paix. Et on parle d'agriculture, on parle de fleurs, on parle de bienveillance, on parle de famille. On parle, dans cette expo, on parle pas de Kalachnikov, de chars et tout ça. Voilà, il y a une exposition, par exemple, sur « Fusillés pour l'exemple ». Hein, ces soldats qui, à la guerre de 14-18, ont été massacrés par l'armée parce qu'ils ne voulaient pas tuer les ouvriers du camp d'en face. On a une exposition sur les pacifistes de 1914. Voilà. C'est-à-dire que nous, on dispose de tas d'outils pour rendre l'action pour la paix concrète. Par exemple, l'Université populaire du Gard rhodanien, qui est à Pont-Saint-Esprit, nous a invités l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, pour organiser une conférence autour de l'arme atomique. On les a revus récemment, on va leur proposer des nouvelles thématiques pour les années futures. Donc par exemple, les gens qui animent des universités populaires et qui nous écoutent, peuvent faire appel à nous. On a des tas de sujets à leur proposer sur l'ONU, sur le développement durable, sur les femmes actrices de paix, sur la paix en tant que telle. Voilà. Enfin, je suis très passionné parce que j'y crois, hein, mais je veux dire, la paix, c'est pas quelque chose de théorique. On a tout ce qu'il faut pour que ça devienne quelque chose de concret dans la sphère privée, dans la sphère publique, dans la sphère sociale et dans la sphère politique de la commune, du département, de la région et du monde.
Je suis jardinier et j'ai vu que le 21 septembre, vous proposiez de planter des arbres aussi.
Un arbre,
c'est l'idée de la paix, planter un arbre. En quoi c'est une idée de paix ?
Je sais que en Palestine, il y a une histoire sur les oliviers. Les oliviers, quand ils sont plantés, ben, leurs racines se rejoignent toutes. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire. Je l'ai entendue à Nyons quand j'ai fait une randonnée. Et à Nyons, ils font les sentiers des oliviers. Et ils expliquaient qu'il y avait une fête, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, parce que les oliviers, ils rassemblent toutes leurs racines quand ils sont tous plantés. Mais bon, la paix, ça peut être un oiseau, ça peut être un arbre, ça peut être ce que vous avez envie. La paix, c'est la tolérance, c'est aimer chacun, c'est plein de choses.
Par exemple, le 21 septembre à Nîmes, il y a eu un rassemblement sur la place, je ne sais plus le nom de la place, mais en tous les cas, c'était autour d'un olivier qui a été planté pour la paix. Et cet olivier qui n'est jamais taillé, alors c'était extraordinaire, il y avait beaucoup de monde le 21 septembre à Nîmes. Et donc, on était tous autour de l'olivier, enfin, un petit peu plus loin que l'olivier, parce que finalement, cet olivier qui n'est jamais taillé fait beaucoup d'ombre. Et qui se met sous cet olivier ? Eh bien, les SDF, les gens qui sont à la rue. Et on se disait que justement, il était hors de question qu'on les déloge pour aller sous l'olivier, parce que ce bel olivier-là, eh bien, ça devait être un lieu de...
Un abri.
Un abri, voilà, pour les gens qui, justement, sont en difficulté et n'en ont pas d'abri. Donc, il y a cet olivier de la paix sur cette place, j'ai oublié le nom de la place, à Nîmes, voilà.
Pierre ?
Oui, pour répondre à votre question agricole, par exemple, en Savoie, à Chambéry, ça fait 10 ou 15 ans que pour le 21 septembre, toutes les écoles maternelles, en lien avec le comité du mouvement de la paix et en lien avec les services horticulture de la ville, plantent des espaces verts, enfin, ils plantent des parterres avec des pensées sur le thème « Une pensée pour la paix ». Donc à la fois, ils travaillent sur la forme, qui peuvent être des colombes, des choses comme ça, et en même temps sur la symbolique de la pensée, et ça a un effet auprès des élèves et des enseignants, et je vous dis, ça fait une dizaine d'années que ça dure, et ça associe donc à la fois le milieu scolaire, le milieu militant, la ville. Une autre idée, par exemple, pas très loin d'ici, dans la Drôme, le comité de Roche-Colombe organise chaque année maintenant un trail pour la paix. C'est pareil dans les Hautes-Alpes à Trascléou et c'est pareil en Corrèze. Il y a trois comités en France qui organisent ça. Bon, ben voilà, c'est une manière aussi d'associer le monde sportif à la paix par ce trail pour la paix. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ayez confiance en vous, là je m'adresse aux auditeurs, ayez confiance en vous, dans votre capacité à trouver des idées, laissez libre cours à votre imagination et vous allez trouver plein de choses qui rassemblent des gens divers pour cet idéal de paix, mais qui est un idéal, mais un idéal concret. Pas uniquement un idéal au sens de choses qui peut-être arrivera un jour, mais un idéal qui est à construire pour demain, comme les utopies. Toutes les utopies d'aujourd'hui, en fait, sont les réalités de demain.
Voilà, ce sont les rêveurs qui construisent la paix. Loïc, donnez-nous un petit peu les infos maintenant pour adhérer à votre association et vous rejoindre.
Oui, c'est simple. Alors, le comité Pax Rhona a un site web tout neuf. Donc vous pouvez retrouver l'actualité passée, bien sûr, toutes les actions qu'on a menées, mais aussi les actions futures. Donc je vous donne l'adresse, c'est paxrhona-mvtp.org. Et bien sûr, sur le site, vous avez tout ce qu'il faut pour adhérer, parce que il faut du monde pour la paix.
Voilà, merci beaucoup en tout cas à vous tous. J'étais avec le comité Pax Rhona du Mouvement pour la paix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. C'était le Mouvement pour la paix, une émission proposée par le comité Pax Rhona.